Bienvenue à Surfer la vague, le podcast qui te présente les Québécois qui produisent ce que tu vois sur tes écrans. Je suis Olivier Gédé et je suis gestionnaire de marketing numérique. Tu aurais pu faire n'importe quoi et tu as choisi d'essayer mon 7e épisode. Merci d'être là. J'espère ne pas te faire regretter ton choix. Cette semaine, je reçois Francis Jeté. Au départ, j'ai rencontré Francis dans un barbecue chez un ami en commun il y a vraiment longtemps. Là, c'était avant la COVID. Puis bien que lui-même ne veut pas le reconnaître, tu vas le voir dans l'épisode, Francis, c'est un des plus gros noms du marketing numérique et de la création de contenu au Québec. C'est définitivement une référence, surtout dans les groupes Facebook et les réseaux de professionnels. On va souvent voir son nom passer, il va sûrement souvent avoir les réponses aux questions des gens. Donc il aide aussi beaucoup, il donne beaucoup aussi aux jeunes et aux nouveaux du domaine. Puis en fait, Francis le sait pas lui-même, là, mais c'est un petit peu grâce à lui si je fais ce que je fais maintenant aujourd'hui. J'essaie beaucoup de m'inspirer de lui, en fait, parce qu'au départ, la rencontre que j'ai eue avec lui, les discussions qu'on a eues ensemble le soir de ce barbecue-là, il y a plusieurs années, c'est ce qui a semé une petite graine dans mon esprit de quitter ma job de boîte de l'époque pour aller travailler dans le domaine qui me passionne, qui est le marketing numérique. Donc, je lui en dois vraiment beaucoup et j'étais vraiment, vraiment content d'apprendre qu'il voulait venir à mon podcast, qu'il a accepté mon invitation. Alors, j'étais vraiment content de lui parler et voici ce que ça a donné. Francis Jeté, bon matin.
Salut Olivier, ça va?
Ça va bien toi? Pour ceux qui ne te connaissent pas, là, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Et tabarnouche, j'ai toujours une valeur à répondre à cette question-là parce que, contrairement à ce qu'on recommande vraiment beaucoup, je suis pas niché puis je suis pas spécialisé dans quelque chose. Fait que souvent, je dis que je suis consultant en marketing numérique, mais là, ça veut rien dire au monde. Fait, là, ça veut dire, right? Fait que si je dis juste ça, ça marche pas. Mais dans le fond, moi, ce que je fais, j'aide vraiment les entreprises à atteindre leurs objectifs d'affaires. À l'aide des plateformes numériques, des plateformes sociales comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Tant au niveau de la stratégie qu'au niveau de la création de contenu, que l'utilisation de des publicités, du live streaming, la vidéo en direct, le podcast. Donc, ça, c'est vraiment une grosse partie de ce que je fais. Puis, je donne aussi beaucoup de formations en lien avec les plateformes sociales puis médias sociaux. Donc, c'est vraiment ça que je fais en tant que tel. Donc, la consultation, de l'accompagnement stratégique puis de la formation.
En fait, à mon avis, je pense pas être le seul à penser ça, mais tu es probablement une des références au Québec en matière de stratégie marketing numérique, si on veut. Puis tout ce qui est rattaché. Mon podcast s'appelle « Surfer la vague ». Puis je pense que justement, tu es un de ceux qui surfe le mieux cette vague-là du numérique au Québec. Comment tu t'es rendu où tu es aujourd'hui? Comment tu t'es rendu là?
Bien, en tout cas, moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis un des meilleurs au Québec, mais j'aspire assurément à essayer d'être le meilleur dans ce que je fais par rapport à ce que je suis capable de livrer à ma clientèle. Puis l'objectif, c'est vraiment tout le temps que les gens soient ultra satisfaits. Puis moi, je suis une personne vraiment compétitive. Fait que un des éléments qui est vraiment fun avec les médias sociaux, c'est qu'à chaque fois que tu fais une publication, tu as des stats qui sont rattachés à ça. Fait que je te dirais que moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à, un, m'améliorer, mais surtout, deux, à comprendre les médias sociaux puis à comprendre comment ça fonctionnait. Donc, si je te disais, comme qu'est-ce qui fait que présentement, je peux aider vraiment beaucoup d'entreprises puis de gens qui font de la création de contenu ou l'utilisation des médias sociaux dans un cadre professionnel, bien, c'est surtout le fait que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à créer des publications puis à analyser les résultats de ces publications-là, tout simplement, OK? Je trouve qu'on a tendance à complexifier la job de création de contenu puis de médias sociaux. Dans le fond, c'est vraiment simple, OK? Qu'est-ce qu'on doit faire, c'est de créer du contenu qui va parler à une audience. Plus que tu es capable de présenter ton contenu de manière à ce que ça rejoigne ta clientèle cible, plus que ça va générer d'interactions, plus que tu as d'interactions, plus que tu as de visibilité sur les médias sociaux. C'est aussi simple que cela. Après ça, le faire, c'est compliqué. Puis donc, pour répondre à ta question, ben moi, c'est ça qui a fait que je suis devenu meilleur, en fond. C'est que quand j'ai travaillé à RDS pendant 6 ans, où est-ce que j'étais gestionnaire de communauté. En tant que gestionnaire de communauté, mon travail, c'était simple, c'était de faire des publications, puis de faire un maximum de publications possible dans une journée. Fait que dans une journée moyenne, on faisait entre 25 à 40 publications sur Facebook uniquement. Ça inclut pas Twitter, ça inclut pas Instagram, donc les deux autres principales plateformes sur lesquelles on évoluait. Donc moi, je faisais des publications et je créais un peu de contenu et j'aidais à la stratégie de contenu pour, entre autres, la plateforme de Balcourt. Donc c'est simple. À chaque fois que je créais une publication, mais après ça, je voyais l'impact de cette publication-là. Est-ce qu'elle avait généré des interactions? Est-ce qu'elle avait généré un maximum de clics? Parce que notre objectif d'affaires numéro un, comme gestionnaire de la communauté RDS, c'était de générer du trafic sur le site web. Donc, est-ce qu'elle atteignait l'objectif voulu de générer du trafic? Donc, moi, c'est ça, c'est simple. C'est ce feedback loop-là que j'étais en constante analyse, dans le fond. Cette publication-là, de la manière que je l'ai rédigée, les mots que j'ai utilisés, comment je l'ai présenté, est-ce que ça générer des commentaires, est-ce que ça a généré de l'engagement, puis au bout du fil, est-ce que ça a généré l'objectif voulu des visionnements vidéo, des clics, du trafic. Puis c'est vraiment ça, c'est juste la mise en pratique de cette analyse-là, comme, hey, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires, comment les gens y réagissent. Oh, souvent, là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que je faisais une publication, puis là, une heure, deux heures après, j'allais analyser les commentaires. Puis là, dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait comme quelque chose, puis là, j'étais comme, ah, c'est ça que j'aurais dû écrire. Dans le fond. Parce que lui, il générait beaucoup d'autres réponses, puis de commentaires, puis de likes à son commentaire. Donc, tranquillement, pas vite, en lisant les commentaires des gens, j'ai compris comment parler à ma fanbase de la même manière qu'eux autres qui parlent. Et c'est vraiment ça que cet apprentissage-là de 6 ans m'a permis de comprendre, c'est à quel point, dans le fond, c'est relativement simple. Après ça, il faut comprendre comme toutes les fonctionnalités. Ça, je suis comme devenu un petit geek un peu là-dessus, là, à essayer de comme, comprendre comment tout fonctionne. Fait que ça, c'est mon côté technique un peu là, qui
OK. Puis tu fais quand même, tu sais, tu es très touche à tout, comme tu disais tantôt. Ça ressemble à quoi ton horaire d'une journée, une semaine ou un mois? Là, est-ce que ça varie beaucoup, mettons, là-dessus, ou c'est très semblable?
C'est assez semblable, je te dirais. Je me suis bâti un horaire où est-ce que... Parce que, tu sais, je passe quand même beaucoup de temps en mode exécution pour des clients. Fait que exécution, ça peut être soit en rencontre d'accompagnement, soit en analyse statistique, soit en analyse de contenu, tout simplement. Fait que je passe quand même beaucoup de temps à faire ça, mais dans les temps flottants, mettons, où est-ce que je me prends du temps à tous les jours pour lire sur les plateformes, médias sociaux, les changements, les évolutions. Je prends du temps à tous les jours pour consommer du contenu sur toutes les plateformes pour voir comment les gens font des trucs. Fait que, tu sais, moi, personnellement, j'utilise presque pas les médias sociaux pour moi. J'utilise les médias sociaux tout le temps en mode analyse, genre. Fait que là, comme si je regarde du contenu, je fais pas juste regarder du contenu comme en scrollant de manière passive. Je suis comme tout le temps en train de regarder comment ils ont produit leur contenu, comment... C'est quoi la croche au début? C'est quoi comment ils ont produit leur visuel? Le carousel, ils créent comment? C'est quoi le call to action? Fait que je suis comme tout le temps en mode analyse. Fait que c'est un réflexe que j'ai développé à l'époque que j'étais à RDS parce que là, j'analysais beaucoup qu'est-ce que les autres faisaient en termes de caption, comment ils rédigeaient leur titre, comment ils rédigeaient leur contenu. Puis ça, on dirait que ça c'est devenu une deuxième nature. Fait que maintenant, quand je consomme du contenu, j'essaie tout le temps comme d'analyser ça. Fait que ça fait c'est une partie de ma routine. Fait que peu importe si je scroll un peu de temps sur LinkedIn ou quoi que ce soit dans ma journée, ben je suis vraiment en mode analyse. Fait que ça ressemble à ça, là, mais j'essaie d'avoir des portions dans ma journée que je suis un peu plus en mode deep work. Fait que pas de rencontre, puis je me concentre sur des tâches à exécuter. Puis après ça, souvent, j'ai des blocs d'horreur où est-ce que je suis un peu plus en mode rencontre, meeting. Puis, j'ai des journées de formation aussi, là. Fait que j'essaie de booker mes formations pas mal tout le temps les mercredis dans ma semaine. Puis, mon vendredi, bien souvent, c'est ma journée un peu plus qui est ouverte, dans le sens que j'essaie d'avoir jamais de meeting le vendredi, à moins qu'il y ait des urgences. Puis, sinon, je fais un peu de création de contenu les vendredis, puis je travaille sur ma business le plus possible. Puis quand j'ai besoin de repos, j'essaie d'écouter mon corps et de prendre du temps pour me reposer. Quelque chose qui n'est pas facile pour moi, puis je pense pour beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, de savoir se donner du temps pour s'arrêter puis ralentir un peu. Là, ça, je commence à apprendre à faire ça.
Ben justement, je voulais en parler plus tard, mais on pourrait en parler tout de suite parce que surfer la vague, c'est aussi surfer la vague de l'anxiété, du stress, de tout ce qui peut venir avec un travail comme le nôtre. Est-ce que c'est quelque chose que tu contrôles bien ou t'as l'air de dire que ça peut être difficile par bout?
Ben moi, j'étais un solide workaholic avant de... pour plusieurs raisons, parce que j'aime ça travailler souvent sur plusieurs projets. Donc, je travaillais à RDS, mais j'avais des contrats en consultation. Puis je faisais aussi la production de contenu avec TVGo.ca, avec qui on faisait de la webdiffusion et la création de contenu vidéo. Fait que, tu sais, j'avais comme l'équivalent de 3 jobs en même temps, plus être analyste de basketball pour les webdiffusions du basketball universitaire. Fait que, tu sais, comme j'avais vraiment toujours plusieurs chapeaux. Puis là, depuis que je suis à mon compte à temps plein, depuis un peu plus que 2 ans maintenant, ben là, j'essaie vraiment d'être plus sage en termes d'une quantité d'heures puis par semaine, puis aussi en termes de routine dans la vie, tu sais. Fait que je me couche vraiment plus tôt que je me couchais. Le sommeil, j'avais écouté un épisode de podcast de Joe Rogan sur... avec un auteur qui s'appelle, évidemment, je ne me souviendrai pas de son nom, c'est Mathieu quelque chose. Puis son livre, c'était Why We Sleep. Fait que pendant 2 heures, genre, j'étais comme, oh my God, t'sais, il parlait de l'importance du sommeil. Puis là, après ça, j'ai été lire ce livre-là, puis j'ai lu plein d'autres livres sur l'importance du sommeil. Fait que j'ai vraiment amélioré ma routine de sommeil. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mes niveaux d'énergie pour que ça soit un peu plus stable, mais surtout dans la gestion de l'anxiété puis tout le kit, le sommeil est vraiment un élément clé. Puis aussi, tant côté performance physique, fait que on sait que c'est important pour gérer le stress, de prendre du temps pour aller s'entraîner, faire de l'activité physique, sans nécessairement s'entraîner, mais faire de l'activité physique, c'est un élément clé. Fait que ton sommeil aide à ça aussi, tu sais. Fait que ton sommeil, c'est vraiment une fondation pour t'aider dans ta vie de manière générale.
Ben, j'ai un peu ce problème-là, puis je suis sûr qu'il y a sûrement des auditeurs aussi qui l'ont. Fait que c'est quoi qui t'a aidé le plus, toi, pour, mettons... Parce que moi, mon problème, là, pour mon sommeil, c'est une fois que je suis étendu dans le lit, j'ai mon téléphone dans mes mains, puis je suis comme ça pendant 1, 2 heures, 3 heures. Puis ben, c'est quoi, toi, qui a été la clé de faire, bon, le téléphone, je le dépose là, puis je me couche, puis à une heure raisonnable?
Ben, ça, c'est le plus gros problème pour la majorité des gens, c'est le blue screen, là, dans le fond. Là. Fait que ce soit la télé, que ce soit ton ordinateur, ton iPad ou ton téléphone, comme utiliser ces outils-là comme avant d'aller se coucher, ça a vraiment un impact négatif sur ton sommeil. Moi, ce qui m'a le plus aidé, dans le fond, c'est de comprendre tous les impacts négatifs que ça peut avoir sur ta santé, le fait de ne pas bien dormir. Fait que là, à partir de ce moment-là, ben, tranquillement, pas vite, j'ai amélioré ma routine pré-sommeil. Puis là, maintenant, mon cellulaire, je l'amène même plus dans ma chambre, dans le fond. Fait que mon cellulaire, il est dans la cuisine, mettons, puis il est assez loin pour que je puisse pas l'utiliser avant de me coucher ni en me levant directement le matin. T'sais. Fait que ça a été quelque chose qui m'a vraiment aidé.
C'est tellement niaiseux, mais tellement intelligent.
Ouais. c'est quelque chose qui a été progressif, tu sais. Puis pendant longtemps, je disais mon cellulaire aussi dans ma chambre pour m'aider à m'endormir en mettant, par exemple, des méditations dans une application de méditation. C'est fait que souvent, comme quand j'ai un peu plus de difficultés à m'endormir, parce que ça peut arriver, comme tout le monde, ben là, souvent j'ai des apps de méditation que je vais utiliser. Fait que la méditation en tant que telle peut aider au sommeil. Fait que moi, je médite souvent... plus le matin, mais des fois, si je sens que mon cerveau il est vraiment agité parce que je suis dans une semaine occupé ou j'ai des contrats stressants ou quoi que ce soit, ben là, la méditation avant de me coucher va vraiment m'aider. Sinon, si ma méditation que j'ai faite moi-même tout seul n'aide pas, ben là, je vais utiliser une application de méditation pour comme me concentrer sur la voix de l'autre puis essayer de m'endormir. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans la gestion, un peu comme de la tête là, qui continue de rouler. La méditation aide vraiment pour ça, que ce soit fait de manière individuelle ou à l'aide d'applications.
Si on revient un peu plus à ton travail en tant que, plus particulièrement, en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est une passion, les réseaux sociaux, pour toi? Vu que tu dis que souvent, quand tu scrolls, ben, tu scrolls pas de façon passive, tu le fais vraiment en analysant tout. Est-ce que c'est parce que ça te passionne ou c'est juste parce que tu aimes l'aspect analytique de ça?
C'est une excellente question. Est-ce que je suis passionné par les médias sociaux en tant que tel?
Ou le marketing numérique en général?
Ce que j'aime vraiment beaucoup, dans le fond, c'est le contenu. T'sais? Fait que pas les plateformes sociales, parce que, comme je le mentionnais, moi, perso, j'essaie de pas trop les utiliser dans ma vie au quotidien. T'sais? Fait que sur mon cellulaire, j'ai aucune notification qui rentre pratiquement à part les messages. Même mes courriels, j'ai aucune notification. Puis mon cellulaire, j'essaie de comme quand je suis dans un contexte social, je l'utilise le moins possible, à moins justement que j'ai un texto qui rentre, qui soit vraiment important, quoi que ce soit. Mais autrement, tu sais, j'essaie vraiment de bien gérer ça, cette notion-là de temps passé sur les médias sociaux. Ceci dit, comme n'importe qui, si j'ouvre TikTok puis que je ne me suis pas planifié un moment spécifique dans ma journée puis j'ouvre TikTok, ben là, peut-être que je vais me faire surprendre à passer une demi-heure de trop là-dessus versus ce que fait que je suis loin d'être parfait de ce côté-là, mais j'essaie d'être très, très conscient quand j'utilise les médias sociaux. Fait que tu sais, je ne suis pas un passionné de médias sociaux comme utilisateur. Ce que j'aime beaucoup, c'est la création de contenu, je pense, puis surtout comment ça peut avoir un impact pour aider des entreprises, des petites comme des grosses, comme des moyennes entreprises, comment ça peut les aider à atteindre leurs objectifs d'affaires. Je pense que moi, c'est vraiment ça plus qui me drive la portion comme aider les entreprises et les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs d'affaires à l'aide de ces outils numériques-là. Mais encore une fois, c'est comme si je m'assois avec quelqu'un puis que là, on jase de ses objectifs d'affaires puis je me rends compte que ben, peut-être cette personne-là, là, les médias sociaux, c'est vraiment pas pour elle. Un, parce qu'elle n'aime pas créer du contenu, ou deux, peut-être parce que son style de business ou le produit qu'elle vend, peut-être les médias sociaux, c'est peut-être pas l'élément clé pour elle. Peut-être c'est un peu plus comme du développement d'affaires en prenant le téléphone ou en envoyant des messages, quoi que ce soit, mais peut-être pas comme les médias sociaux juste en mode création de contenu, tu sais. Fait que ça, j'aime beaucoup comme quand être capable de dire, comme quand je m'assois devant quelqu'un et je dis, ben toi, présentement, ta business, elle se génère comment? Du bouche à oreille? Ben fine, comme mise là-dessus au maximum, tu sais. Mm-hmm. Puis je suis le meilleur exemple de ça. C'est la majorité des clients avec lesquels je travaille de manière récurrente, ben c'est vraiment mon réseau de contacts qui me l'a amené. Donc, moi, la création de contenu médias sociaux, la seule raison pourquoi j'en fais sur LinkedIn, dans mon infolettre, ou sur Instagram ou sur TikTok, c'est pour m'amuser à créer du contenu parce que j'aime ça, créer du contenu. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde des médias sociaux en créant du contenu pour un site web que j'avais lancé. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime faire, que je continue à faire, mais j'ai pas besoin pour ma business perso. Donc, je suis capable de comprendre que c'est pas pour tout le monde les médias sociaux. Puis s'il y a quelqu'un qui s'assoit devant moi puis que lui, cette personne-là, on détermine que sa business, elle vient d'ailleurs du numérique, ben peut-être que le numérique, c'est pas la solution. Fait que je suis capable d'avoir ce pas de recul-là pour aider les gens, ouais. Pas juste être focus sur une solution numérique à 100% tout le temps.
Selon toi, comment vont évoluer le web et les réseaux sociaux dans les 5, 10, 15 prochaines années? Le sujet qui domine le plus présentement, c'est probablement le metaverse, mais est-ce que selon toi, c'est juste ça? On s'en va où là, avec nos réseaux sociaux puis avec notre web en ce moment?
C'est une excellente question. Je te dirais que si j'avais la réponse à cette question-là, je serais sûrement travailler super fort pour me positionner là-dessus, mais je te dirais que c'est super intéressant de voir l'évolution. Tu sais, entre Facebook, où est-ce qu'on postait des photos de chats, puis qu'on faisait des petits captions drôles, là, tu sais, comme À l'époque, pour les business, c'était ça où tu mettais une belle photo de ton bureau et tu disais bon vendredi à tous, genre quelque chose de même. Là. C'était vraiment très, très basic à ce qu'on voit, ce qu'on a vu arriver du côté d'Instagram avec du contenu parfait, parfait, parfait. Puis là, on revient avec TikTok avec du contenu vraiment authentique où est-ce qu'on est un peu plus en mode comme. On connecte avec l'audience, puis TikTok se considère beaucoup plus comme une plateforme d'entertainment qu'une plateforme de médias sociaux. Quand on analyse les mots qu'ils emploient, puis comment dans leur pitch qu'ils font aux agences, puis dans les formations qu'ils offrent, TikTok se compare beaucoup plus à Netflix qui se compare à Facebook puis à Instagram, tu sais. Donc, exact. C'est vraiment intéressant de considérer ça, puis à quel point comme c'est de démocratiser la notion d'entertainment, puis que n'importe qui dans son salon, dans son bureau, peut entertainer, tu sais, s'il est créatif assez. Puis ça, combiné à ce qu'on voit arriver du côté du Web3, des NFT, puis de la crypto, ben ça va être vraiment intéressant de voir à quel point ça va changer des modèles d'affaires, puis à quel point, ben justement, le marketing en tant que tel va complètement évoluer. Puis, il y a assurément une des choses qu'on va voir arriver, c'est des plateformes sociales, de médias sociaux, si on veut là, utiliser ce terme-là, mais des plateformes où est-ce que les créateurs de contenu vont partager les revenus avec la plateforme qui héberge. Ça fait que là, présentement, le modèle de monétisation pour les créateurs de contenu sur les plateformes comme YouTube, TikTok puis Facebook, c'est les plateformes qui font le gros de l'argent, puis certains créateurs de contenu font beaucoup d'argent, mais toute la long trail des gens, ils ne font pas tant d'argent que ça à créer du contenu sur les médias sociaux, à moins que tu sois capable de les monétiser. Comme moi, mettons, je crée du contenu sur LinkedIn, bien, LinkedIn fait bien plus d'argent avec mon data en me proposant des pubs que moi, je pourrais peut-être en faire en utilisant la plateforme. Évidemment,
allant chercher des leads, mettons.
Oui, exact. Tu sais. Donc, c'est peut-être ça qu'on va voir évoluer beaucoup dans le temps. Tu sais, comment les plateformes Web3 vont avoir un peu plus une notion de partage de revenus, puis comment aussi on va voir un peu les habitudes de consommation par rapport aux médias sociaux changer par rapport à toute la notion de vie privée. Fait que ça, on le voit quand même déjà évoluer beaucoup avec Apple qui a désactivé le tracking pour les applications. Il va arriver la même chose avec les principales browsers, donc Safari, celui de Apple.
Ben, il y a Chrome,
Firefox, Chrome. Ouais. Fait que Safari, Firefox puis Chrome qui vont aussi comme tout désactiver les cookies. Fait que ça aussi, c'est des défis qui s'en viennent du côté du marketing numérique et des médias sociaux. Fait que il va y avoir beaucoup de changements et d'évolutions dans ce qu'on voit. Puis, ben, en parallèle, moi, je trouve ça toujours intéressant de voir comme les plateformes qui évoluent. Fait que là, il y a Discord qui, à la base, était une plateforme un peu plus comme pour les gamers. Ben là, Discord commence à se faire utiliser beaucoup plus pour des groupes, pour créer des communautés. Puis, cette notion-là de communauté, pour moi, c'est quelque chose qu'on sous-estime vraiment beaucoup, puis qu'on a perdu cette notion-là. À la base, quelqu'un qui travaille sur les médias sociaux, on appelle ça un gestionnaire de communauté.
Oui.
Mais on ne crée plus des communautés. On pousse du contenu sans nécessairement travailler cette notion-là de comment on crée une communauté. Puis ça, je trouve, ça se perd. Puis là, quand on regarde des compagnies comme, admettons Maxi ou Hydro-Québec, que là, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on est plus un peu plus en mode interrelation avec le monde. Hein? Et là, on se dit, oh wow, sont donc ben intelligents, sont donc ben wise de faire ça. Mais c'est ça, théoriquement, qu'on devrait faire sur les médias sociaux. C'est juste que les entreprises n'allouent pas les ressources pour être en mode interrelation avec leurs abonnés. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose que je ne sais pas si ça va revenir, mais théoriquement, avec le Web3 puis les NFT puis tout ça, on parle de ce sentiment-là de communauté qui se vit dans ces groupes-là. Donc, ça serait vraiment intéressant de voir si cet aspect-là de communauté numérique va revenir. Puis, tu sais, c'était à la base du web, les forums, les forums, puis tout ça. Tu sais, c'était vraiment ça dans les premiers temps du web qu'il s'est créé des communautés. Donc, je pense que cette notion-là, c'est quelque chose qui va être intéressant. Puis, c'est pas pour rien que Facebook aussi met vraiment beaucoup d'emphase dans sa plateforme sur les groupes. Les groupes sur Facebook prennent beaucoup de place. Fait que c'est ça, hein, c'est des micro-communautés qui se créent. Puis à l'intérieur de ces communautés-là, ben là, il y a beaucoup de valeurs qui se créent aussi. Fait que je pense que ça fait partie un peu de ce qu'on va voir arriver dans les prochaines années.
Si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut aller travailler en marketing numérique, ce serait quoi? C'est pas obligé d'être juste un non plus. Si t'en as plusieurs, on va tous les prendre.
Ben, je pense que le conseil le plus important, c'est d'essayer de pas juste... C'est de créer du contenu, en fait. Fait que la clé, c'est ça. C'est de tester, puis tester, puis tester, dans le fond. C'est comme ça que tu finis par apprendre. Puis n'importe... Puis quand je dis tester, c'est tester ta création de contenu, tester les différentes plateformes, tester les différents outils pour t'aider dans ces plateformes-là. Puis c'est ça, je pense, la clé. C'est d'être tout le temps en mode test. Puis tester un contenu, tester une idée, tester un format de contenu. Pour moi, je pense que c'est vraiment ça l'élément clé parce que tes tests vont t'amener des apprentissages. Puis ces apprentissages-là vont t'amener à t'améliorer. Puis plus que tu testes au début, je faisais de la rédaction web, mais j'ai appris à faire du montage vidéo, j'ai appris à faire du Photoshop, j'ai appris à créer n'importe quelle sorte de contenu, dans le fond. Puis en testant toutes les sortes de contenu, ben là, j'ai comme appris vraiment beaucoup. Tu sais, puis là, tu comprends que quand tu fais ça, que ce soit écrit ou en vidéo ou en visuel, ben ça fonctionne. Tu sais. Fait que c'est en faisant plein de tests comme ça que je pense que c'est vraiment la clé. Les gens, je pense, ils ont très, très peur de tester parce que des fois, quand tu testes, ben tu vas avoir des échecs. Puis l'échec, ouais. ça fait peur à tout le monde. Moi, le premier, je ne crée pas autant de contenu que je souhaiterais parce que moi aussi, comme prendre mon téléphone puis me filmer en mode selfie, ça me stresse. Être en entrevue comme là présentement puis jaser avec toi, pour moi, ça, c'est pas stressant. Mais créer du contenu one-on-one avec mon cellulaire, c'est bien plus stressant pour moi que de parler devant 20-50 personnes, tu sais. Fait que pour moi aussi, c'est difficile. Fait que c'est de tester puis de trouver la meilleure manière pour toi de le faire, je pense.
Mais merci beaucoup, Francis, d'avoir accepté mon invitation. J'apprécie vraiment beaucoup la discussion qu'on vient d'avoir.
Ben moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer à de la création de contenu, justement. Pas mal tout le long de... Fait que moi, comme des invitations comme ça, j'adore ça. Puis j'adore comme connecter avec des gens puis avoir la chance de jaser de numérique, de business puis de vraie vie aussi à travers tout ça. Fait que ben merci à toi, Olivier, pour ton invitation.
Si on veut te suivre, on va où?
La plateforme où est-ce que je crée du contenu de manière vraiment la plus récurrente, c'est sur LinkedIn. Fait que vous pouvez me trouver facilement sur LinkedIn. Vous allez voir ma petite face avec mon petit sourire. peut-être vous abonner à mon infolettre. Fait que cherchez Francis Jeté, infolettre, la notif. Fait que dans le fond, j'envoie une infolettre pratiquement toutes les semaines. J'ai pris un petit moment de congé cet été. Mais pratiquement toutes les semaines, là, je fais la revue de toutes les plus grosses nouvelles dans le monde des médias sociaux puis du numérique. Fait à chaque fois qu'il y a des changements par rapport au format de contenu, aux nouvelles fonctionnalités ou quoi que ce soit, je mets ça de l'avant. Puis je ne fais pas juste dire c'est quoi la nouvelle, j'essaie aussi de la digérer puis de l'expliquer pour que les gens puissent l'intégrer à leur stratégie de médias sociaux de manière efficace. Fait que la notif est aussi un excellent moyen de me suivre. Mais sinon, je suis actif sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Il y a juste YouTube où est-ce que j'ai une chaîne qui a comme un résumé de tous les contenus que j'ai faits. Mais je vais avoir un podcast que je vais relancer très bientôt. Fait que le social show, fait que peut-être sur les plateformes de podcast, si vous cherchez le social show, vous allez pouvoir voir mes vieux, vieux, vieux épisodes. Puis il y a une nouvelle saison qui s'en vient à cet automne.
Génial. J'imagine qu'on peut aller sur ton site web aussi, que pas mal tout va se trouver facilement par là.
Oui, sur mon site web, francisjeté.ca.
Parfait. Puis je veux juste glisser un mot à propos de ton infolettre. Je suis pas un fan d'infolettre depuis que le concept existe. Je m'abonne et je me désabonne très rapidement.
Ouais.
Mais le tien, je te l'ai déjà dit en privé, mais là, je vais le dire publiquement, le tien est probablement le seul que je lis à chaque fois. Dès qu'il rentre dans ma boîte courriel, je le lis. Puis effectivement, il est excellent, autant pour les pros que pour les curieux qui se connaissent plus ou moins, mais qui veulent juste en apprendre plus. C'est vraiment, je le recommande fortement. Là, c'est une excellente lecture à toutes les semaines, je trouve.
Ben, merci beaucoup, Olivier. Ça me fait chaud au cœur de t'entendre dire ça. Puis, tu sais, moi, c'est exactement pour ça que je fais ça. Je sais qu'il y a des gens qui commencent dans le monde du numérique ou il y a des gens qui touchent un peu le numérique dans le cadre de leur job, mais que ce n'est pas leur principale priorité. Puis, tout le monde est débordé. Puis, tout le monde manque de temps. Fait que, tu sais, moi, pour garder mes formations à jour en lien avec les médias sociaux, je n'ai pas le choix de me garder à jour pour parler de qu'est-ce que c'est présentement puis où ça s'en va. Parce que moi, j'aime beaucoup mes formations et de la valeur sur le long terme, pas juste comme tu as su aujourd'hui, puis là, demain, l'algorithme change, puis t'es...
Et puis bonne, ouais.
T'es perdu, ça marche plus. Ou un bouton change de place, puis fait que j'aime bien ça, comme rester à jour pour mes formations. Donc, je fais déjà ce travail-là. Donc, pour moi, c'est d'amener de la valeur à la communauté, d'essayer de partager un peu ces apprentissages-là, puis ces changements-là.
Merci encore, Francis.
Et merci à toi, puis passe une belle fin d'été.
Merci tellement, Francis. C'est toujours inspirant de t'écouter parler de création de contenu et de marketing numérique. Cher auditeur, je t'invite à aller suivre Francis sur Instagram, TikTok, LinkedIn et Twitter. Et surtout, comme je disais pendant l'entrevue, va t'abonner à son infolettre. C'est une des seules à laquelle je suis abonné. Et c'est probablement la seule que je suis heureux de recevoir et de lire. Donc, j'espère que ça va être la même chose pour toi. Tu peux aller t'inscrire sur le site web de Francis, soit francisjeté.ca. C'est aussi là aussi que tu vas trouver tous les liens vers ces plateformes de réseaux sociaux, là, donc ça va être plus facile de passer par là. C'est tout pour Surfer la vague numéro 7. Qu'as-tu pensé de cet épisode? Il y a plusieurs façons de me dire ce que tu en penses. Tout d'abord, sur YouTube, ben, tu peux aimer la vidéo, tu peux t'abonner et sonner la petite cloche. Tu peux écouter sur Apple Podcasts ou Spotify en t'abonnant ou en laissant une note. Oui, c'est possible même sur Spotify, c'est juste bien caché. Peu importe si tu écoutes sur YouTube, sur Apple Podcasts ou Spotify, tu peux aussi partager mon podcast. Je serais vraiment touché en fait si tu le faisais. Donc si tu envoyais ça à un collègue ou à un ami que tu sais qui apprécie le domaine du marketing numérique, je serais vraiment touché de ça. Et en terminant, ben, tu peux aussi t'abonner à moi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. OlivierGD.com en toutes lettres et en un mot. Donc, c'est POINTCOM. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de ce 7e épisode. Dans 7 jours, on va surfer la vague du nomadisme digital. J'ai bien hâte de te présenter ça.